C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de mèmes et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, comment ça va ?
Très bien.
Eh ben écoute, c'est magnifique. Ouais, ce matin, on parle de mèmes, ouais. Comme tu l'as dit.
T'as vu, tout le monde se met à faire des mèmes. Will Smith et la gifle. La petite fille qui sourit devant la maison qui brûle. Marc de la flamme. Ils sont partout les mêmes. Ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Ils parlent évidemment de nos séries préférées, mais aussi de trucs plus sérieux, on va dire, hein, d'actualité, de conflits armés même. Hein, on va voir ça ce matin. Le phénomène est tel que de plus en plus de marques ont recours aux mèmes dans leur stratégie social media.
Ouais.
C'est un phénomène internet majeur.
Écoute, t'as raison, j'ai l'impression que vraiment on est tout le temps en train de parler du mème, de là où il en est, de son retour chaque année, etc. Alors que le mème, il est là tout le temps en permanence. En fait, depuis la création du web, hein, depuis la création d'Internet, on retrouve du mème de partout. Et avec les réseaux sociaux, bah, ça s'est encore plus développé. Pour moi, le mème, c'est un des outils de communication que propose Internet, tout simplement, qui s'est adapté au fur et à mesure des époques.
Est-ce que pour ma maman Marielle, qui écoute peut-être cet épisode aujourd'hui, tu peux expliquer ce que c'est un mème ?
Un mème, c'est c'est la duplication d'une image culte qui est détournée pour souligner autre chose. Voilà, c'est le plus simple possible.
Maman, maintenant tu sais maintenant ce que c'est un mème. Et effectivement, les mèmes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les mèmes, ce sont des marqueurs de communauté. Hein. Pour qu'un mème soit efficace, eh ben, il faut qu'il respecte certains codes.
Ouais, effectivement, le mème, quand on rentre, qu'on creuse un petit peu après sur ce qu'il représente et ce qu'il est, en fait, on voit que c'est un mème qui va marquer certains codes d'une communauté. Donc, ça représente souvent de la pop culture. On pourrait même, si on tirait le fil, parler un peu de trendjacking, hein, parce que, en fait, c'est l'iconographie de ta communauté. Il faut que quand quelqu'un tombe sur ton mème, tout le monde sait de quoi t'es en train de parler. Donc ça veut dire que quand on prend la communauté du football par exemple, il faut choisir des images cultes du foot qui va parler à tous les amateurs de foot pour que ton mème soit réussi, même si toi tu le détournes pour raconter autre chose. Et en fait c'est le cas pour tout le monde, pour le gaming, pour toutes les communautés qui peuvent exister. Et du coup, bah, le mème, c'est presque un outil de langage, un outil de communication entre différentes personnes qui partagent des valeurs, un langage, des codes, des normes, une communauté. Et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va développer plus tard un petit peu dans cet épisode tout ça, mais il y a de plus en plus de plateformes qui mettent en avant ces communautés et qui renforcent ces liens communautaires. Et en fait, bah, le mème, naturellement, il a trouvé sa place au milieu de tout ça parce que au final, peu importe le format qu'il va prendre, il est surtout un marqueur d'une communauté et il existe à l'intérieur d'une communauté.
Ouais, t'as raison, c'est une sorte de catalyseur de tout ce qui constitue une communauté. C'est un signe extérieur de communauté, on
carrément
va dire.
Carrément, et je trouve même, si on tire encore un peu le trait, on aurait pu penser, parce que le mème, il a un côté de base un peu crado, tu vois, l'image, on s'en fout qu'elle soit de bonne qualité, la typo, elle est posée un peu n'importe comment dessus, on en a un peu rien à faire de l'esthétisme du mème. Et donc, du coup, bah, on aurait pu se dire à une époque, à un moment donné, tout est en train de monter en qualité, ça y est, on a tous des téléphones pour faire des super photos.
Donc le mème aussi.
Donc le mème, il va monter en qualité ou il va disparaître, mais il va pas pouvoir rester un peu crade, etc. Et comme ce mème est un marqueur de communauté, au final, le mème, il a évolué avec la manière dont les communautés, elles ont évolué dans leur manière de communiquer les unes avec les autres. Donc peu importe, le mème, il s'adapte en fait, ouais, à la plateforme, au format, à tout ce que tu
et
veux.
Et l'opportunité, bah, pour les marques, hein, c'est ce qu'elles ont bien compris, c'est que le mème, ça crée de la connivence communautaire, hein. Ça rapproche,
exact,
la marque de ses communautés cibles, puis ça permet aussi d'apporter une tonalité qui est parfois difficile pour une marque à aller chercher.
Ouais.
Et là, le format lui-même, il porte une tonalité. Alors, une marque qui a bien compris ça, et pour qui a vraiment compris que le mème pouvait être aussi un outil de viralisation, c'est Netflix. Netflix,
yes.
Quand on parle de production de mèmes, je crois vraiment que Netflix, là-dessus, ils ont vraiment une longueur d'avance. Alors, une bonne raison à ça, c'est qu'ils ont à leur disposition un catalogue.
Un catalogue catalogue vidéo léger.
Un petit catalogue de vidéos, de séries, de films, cultes, pop, culture, etc., dans lequel ils peuvent allègrement piocher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment utilisé le mème comme l'un de leurs piliers de contenu très très fort, à tel point qu'ils ont créé une page Facebook dédiée. Voilà, j'ai découvert ça hier en creusant cet épisode. The Netflix Memes sur Facebook. 1,9 million d'abonnés à cette page, hein, donc c'est quand même pas rien. Je vous mets le lien en note de cet épisode. Et là, qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve les productions d'eux-mêmes faites par Netflix, hein. C'est du fait maison par les équipes de Netflix. Énormément de mèmes qui surfent évidemment sur les sorties filmographiques ou séries du moment, mais qui permettent aussi à la marque de rebondir sur des sujets d'actualité, hein. Donc ça lui permet aussi d'élargir sa prise de parole. Et je trouve qu'un dernier exemple en date par les équipes de Netflix d'utilisation de mèmes, c'est ce qui a été fait autour de la saison 2 de Stranger Things. Là vraiment, ils ont, je trouve, déployé tout leur savoir-faire en matière de production de mèmes. On en avait déjà parlé ici au micro du Super Daily, en créant des mini séquences issues de la série, en allant vraiment chercher tout ce qui pouvait faire la force d'un mème, c'est-à-dire des situations un peu de conflit, des situations de gênance, etc. Autant de petites séquences qui pouvaient derrière être mémifiées, on va dire.
En fait, ce qui est impressionnant avec Netflix, c'est qu'ils ont très bien compris qu'ils avaient des éléments de pop culture à leur disposition. C'est surtout ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, je sais pas combien c'est le nombre d'utilisateurs en France qui regardent Netflix, mais c'est énorme. Et ils ont bien compris que du coup, bah, une série comme Stranger Things, quand c'est une réussite comme ça, il y a peut-être la moitié de la France qui l'a vu, la série.
Bien sûr.
Donc quand tu sors un mème avec une image extraite de Stranger Things, il y a la moitié de la France qui sait directement de quoi tu parles et qui se reconnaît dedans et qui s'identifie dedans. Donc quand on parlait tout à l'heure d'iconographie, de pop culture qui parle à une communauté, bah Netflix elle a très bien compris, la plateforme elle a très bien compris que si elle va chercher l'iconographie de ses séries phares pendant l'année et qu'elle l'utilise comme un moyen de communication, ça va cartonner sur ses audiences.
Oui, et puis ça viralise extrêmement fort. Alors là, voilà, là on est dans le classique même, on va dire, hein. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, depuis quelques mois, c'est qu'on assiste à une mémification de l'information. On peut même se poser la question de savoir si le journal de 20h commence pas à être menacé par le même, hein, si je puis dire, parce qu'ils sont devenus des objets tellement emblématiques de notre culture populaire, hein, qu'ils se mêlent désormais de thématiques auxquelles on ne les voyait pas précédemment. Je pense à des sujets sociaux, sujets économiques, politiques, culturels, etc. En bref, aujourd'hui, le même, il sert aussi à commenter des faits de société. Je pense même qu'on pourrait dire que le mème devient une sorte d'héritier du dessin de presse, tu vois, du croquis
de
presse.
Pour moi, c'est la caricature de l'époque, la satire, tu vois, ce domaine-là un petit peu effectivement artistique des dessinateurs à la fin des journaux qui te mettaient un petit dessin sur l'actualité dans le monde. Et ben le mème, il a aussi cette fonction-là. Et d'ailleurs, pour les passionnés de mème, quand tu vas sur la plateforme NanGag et que tu te balades un petit peu dessus, je te jure que tu as à peu près l'information qu'il te faut dans le monde entier avec des mèmes qui te racontent ça de manière un petit peu ironique. C'est un peu les guignols, tu vois, aussi c'est cette ambiance là satirique qui se moque un petit peu du monde, des gens qui se prennent trop au sérieux et qui te racontent quelque chose quand même sur le monde. Pour continuer un petit peu sur NanGag, moi je suis tombé sur un créateur de contenu qui est partagé par NanGag et qui a réalisé aussi des choses au niveau des mèmes qui sont assez intéressants. NanGag, pour moi, c'est vraiment la plateforme reine du mème d'internet. Ils se sont placés sur là-dessus et ils envoient un nombre de mèmes par jour qui est monstrueux. C'est très drôle. Et là, c'est un homme un créateur de contenu qui s'appelle Rudy Winningham. Vous pouvez aller, je vous ai mis le lien de son Instagram aussi, parce qu'il fait des trucs de ouf. Il bosse avec ESPN, NBC, BuzzFeed. Et il a créé du contenu en s'inspirant de mèmes. Donc, il a repris des mèmes qu'il a recréés en réel, mais avec des petites photos qu'il a imprimées. Alors, par exemple, il y a un mème très connu de Michael Jordan qui a les larmes aux yeux. et qui est utilisé dans plein de mèmes, et bah lui il a imprimé la petite tête de Michael Jordan, il a fait des petits trous sous ses yeux, il l'a collé à son robinet de lavabo, et du coup on voit l'eau qui coule en permanence par les yeux de Michael Jordan, et c'est un gif, c'est en fait il y a des gens qui l'ont fait à la base en gif en prenant la tête et en rajoutant de l'eau qui coule de ses yeux, donc c'est vraiment assez intéressant je trouve ce qu'il a fait, et surtout il a détourné et là on est vraiment dans le côté même, on duplique et on détourne, et lui c'est ce qu'il fait et il le propose du coup en vidéo réelle. Il a fait aussi Will Smith qui met vous savez une gifle, c'était pour je crois à Chris Rock pour les Oscars cette année, et je crois que c'est les Oscars, mais en tout cas voilà, c'est des scènes un petit peu cultes qu'il a recréées comme ça, et ça c'est exactement, tu vois, pour moi on est dans la, comme tu disais, on est dans le même dans la même chose qu'un dessinateur. Un dessinateur, il aurait très bien pu détourner l'image de Will Smith qui gifle Chris Rock aux Oscars 2022 pour rajouter une petite phrase satirique ou humoristique au-dessus et faire référence à autre chose dans l'actualité.
On parle de faits de société, c'est des faits de société, on va dire, un peu, toujours très pop culture, mais oui. Ce qu'on voit aussi, c'est que le mème commence à se mêler de sujets auxquels on ne le voyait pas. Je pense notamment à un sujet tragique, la guerre en Ukraine. C'est étonnant, je pense qu'on a tous vécu ça dans notre feed Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter, mais aussi sur Instagram. Avec la guerre en Ukraine, on a vu les organes de propagande russes et ukrainiennes qui ont fait un usage intensif du mème pour décrédibiliser leurs ennemis. Il y a par exemple un compte Twitter qui s'appelle Ukrainian Meme Force qui rassemble 300 000 followers sur Twitter quand même, et dont le job consiste à produire non-stop des mèmes anti-Poutine. Allez jeter un petit coup d'œil à ce coup d'œil.
La guerre de l'information passe par là aussi. Hein.
Exactement. Il y a le même sujet aujourd'hui autour de la situation en Iran, où les révolutionnaires, en tout cas les opposants au régime iranien, aujourd'hui trouvent des moyens dérivés par le même de prendre la parole sur leur situation. Donc c'est très intéressant de voir le déplacement du même. Hein. Il y a autre chose, il y a un autre déplacement, c'est le déplacement de format. Initialement, le même, on imagine quelque chose qui est très statique, hein, qui est une image, comme tu l'as dit, avec une typo un peu dégueulasse dessus, etc. Mais on constate qu'il y a, avec TikTok notamment, une tendance vers la bascule du même vers le même vidéo, et notamment la tendance du POV. Le POV qui semble démocratiser le même vidéo. Alors qu'est-ce que c'est le POV ? Vous êtes peut-être tombé sur cet acronyme un peu chelou sur un post. Tiens, POV. Eh bien, POV, c'est-à-dire point of view, point de vue. En gros,
voilà. Ce qui est très bizarre, parce que moi, je connaissais le POV vidéo. Où du coup bah c'est le point of view, c'est filmé comme si vous étiez dans les yeux du personnage, donc c'est un détournement je dirais de ça, puisque là c'est pas vraiment la même chose.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça c'est un des formats cultes aujourd'hui, hein, le template culte qu'on trouve le plus sur TikTok, hein. Traduit en français, c'est le fameux post qui commencerait par quand tu.
Ouais, quand tu vois le classique, du même,
le classique qui existe sur Facebook depuis longtemps, sauf que là raconté en même, c'est POV deux points, quand ta mère découvre ton bulletin de notes,
quand t'arrives en retard et que ton boss est à l'entrée,
quand ton pote commande un menu Master King Size et que toi t'as rien, etc. Et là, allez, quelques marques vous pouvez aller voir qui utilisent très bien le POV. La marque de stylo Pilote, c'est français, hein. Ouais. qui utilise les mêmes vidéos pour créer, là on le voit bien, de la connivence avec ses audiences, jeunes publics, etc. Alors, par exemple, POV, quand tu tricks avec tes stylos pendant les cours, tu sais les fameux trucs où tu fais tourner ton stylo. POV, quand ta mère te demande de tout reposer, tu sais, à la rentrée des classes et que tu as envie de prendre 5-10 stylos différents, etc. C'est bien fait et on voit bien ce qui est le travail qui est fait d'aller chercher la connivence. Mm-hmm. De marques aussi qui sont extrêmement fortes là-dessus et qui travaillent pareil, ce format POV, Point of View, McDonald's France et Burger King. Bah oui, la guerre des burgers, elle se passe aussi sur TikTok, hein. Et leurs comptes TikTok sont pour moi vraiment des réservoirs d'eux-mêmes. Je vous mets les liens si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil à leur compte TikTok. On enchaîne même sur même, pareil, avec cette logique de recherche de connivence qui passe par ces vidéos POV.
Et ouais, quand on prend un petit peu de recul là sur TikTok, effectivement, c'est très intéressant, parce que TikTok, c'est peut-être la plateforme qui aujourd'hui, de par son algorithme particulier, met le plus en valeur l'esprit communautaire. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, on a déjà parlé plein de fois ici, mais vous, quand vous êtes sur TikTok, vous consommez des verticales, on vous propose en tout cas dans votre feed des verticales de contenu, donc très autour de la communauté food, ou alors de la communauté clean talk, ou de la communauté déco, ou foot, enfin vraiment, vous allez avoir vraiment que du contenu sur votre communauté. Donc, quand on parlait du mème qui est un vecteur communautaire, c'est ultra intéressant de le travailler sur TikTok. Et en fait, on aurait pu imaginer au premier abord qu'on n'avait pas forcément c'était pas la plateforme pour. Et au final, c'est la plateforme, comme tu le dis, exacte, le meilleur endroit aujourd'hui peut-être pour créer du mème et faire du mème.
D'ailleurs, TikTok propose un effet qui s'appelle le Meme Maker. Pareil, je vous mets le lien direct vers cet effet si vous voulez le tester. C'est un effet natif qui te permet de créer des vidéos même super facilement avec ta réaction avant, ta réaction après. Voilà, le fameux POV, tu vas pouvoir le créer avec ce mème, avec cet effet, donc c'est assez marrant. Donc on voit bien transformation du mème vers objet iconique de la pop culture, vers le mème vidéo, mais il y a autre chose. Avec les sons tendance, le mème, il est en train de devenir multimédia, on va dire. Il y a encore 3 ans, vraiment, on avait une image du mème qui était exclusivement statique, éventuellement c'était un gif animé, mais point barre. Avec l'ajout dans les algorithmes d'Instagram et de TikTok des fonctions de son tendance, eh bien les créateurs de contenu et les marques, elles se sont emparées de l'audio comme un outil de pop culture sur lequel elles peuvent aller rebondir, chercher la connivence avec leurs audiences. Et clairement, les sons tendance aujourd'hui, ce sont des audio memes, des mèmes audio.
Oui, non mais t'as raison. C'est clair que quand t'as un extrait de voix de quelqu'un qui est mythique, et on l'a vu ce truc-là, moi tu vois dans le sport, ça fait longtemps qu'en fait on utilise des mèmes audio où on a des commentateurs, certains commentaires en live qui sont mythiques.
Pas ça Zinedine, voilà, pas après tout ce que tu as fait.
Par exemple, tu vois Jean-Michel Larquet qui commente Zidane qui prend son carton rouge au final de la Coupe du Monde 2006, tout le monde sait. Dès qu'on entend cette phrase-là, qu'on parle de ce moment-là, et on n'a même pas besoin de voir les images, on l'a tous en tête. Et t'en as plusieurs comme ça, des gimmicks, et ça, TikTok l'a mis vachement plus en avant grâce à ses trends sonores.
Ouais, un très bon exemple, je trouve, et il est allé chercher du côté de l'usage des sons issus de la série Le Flambeau ou La Flamme, qui est dans la suite, série produite par Canal+. Et là, c'est faramineux, si je peux dire. J'ai jeté un coup d'œil sur Instagram et TikTok, et les sons cultes de la série, ils sont aujourd'hui à l'origine de dizaines de milliers de vidéos différentes en mode lip-sync, le son issu de la série, et puis derrière un personnage qui la raconte. Et d'ailleurs, nombre de ces vidéos, elles sont produites par des créateurs de contenu et des marques. Allez, quelques exemples très précis pour vous rendre compte que c'est à la portée de tout le monde. Les enseignes Leclerc et Hyper U, je peux pas faire moins pop culture, on va dire, que Leclerc et Hyper U. Eh bien, eux, ils se sont eux aussi emparés des sons de La Flamme. Ils se sont coordonnés pour reprendre sur TikTok un audio culte de la série qui est Morito, que se pasó. Je sais pas si
tu vois.
Que se pasó, Old El Paso. No, José. Bon, bref, je vous laisse ça. Je le fais moins bien. Je laisse ça à Jonathan Cohen. Mais je vous mets les liens en note direct pour que vous puissiez aller voir ces audio mèmes qui sont créés par Leclerc et qui à mon avis marchent très bien. D'ailleurs les perfs sont tout à fait au rendez-vous parce qu'ils permettent de créer de la connivence en utilisant un objet sonore pop culture extrêmement connu.
Et montrer que du coup, la marque partage cette pop culture avec sa communauté. Et là, quand on souligne effectivement sur TikTok, c'est le mème, c'est quoi? C'est l'art de dupliquer, de transformer, de détourner quelque chose, une image ou un son, du coup, comme tu le dis. Et le fait que TikTok ait ouvert sa librairie musique et en plus, quand on regarde aussi, moi j'irais même plus loin dans le fait de pouvoir faire des duels sur TikTok et d'avoir 2 vidéos l'une à côté de l'autre, c'est typiquement le sens même du mème. C'est prendre une première vidéo et imiter la détourner et en faire autre chose, nous, dans une deuxième. Donc ça fonctionne trop bien.
Et puis on assiste aussi à un autre phénomène qui est très intéressant, c'est les marques qui tendent des perches aux mèmeurs. L'idée c'est quoi? C'est-à-dire si ma marque pouvait devenir un mème, justement
ça serait top
parce qu'elle générerait beaucoup d'UGC, beaucoup d'exposition,
awareness,
beaucoup de earned media, du média que je gagne gratuitement, on va dire. Allez, quelques exemples. Prada, il y a 2 ans de ça, qui a tendu une perche énorme dans une de ses campagnes aux créateurs de mèmes avec des visuels, pareil je vous mets en note de cet épisode, des visuels de campagne où on voit des photos un peu ésotériques, on va dire, de gens avec sans émotion, très mannequin, et puis des mots clés, des phrases un peu absurdes dessus qui ont été détournées avec énorme plaisir par les mèmeurs. Autre exemple, et pour moi c'est vraiment la marque référence en matière de meme bait, on va dire, comme tu as le bait click, tu pourrais avoir le meme bait, Balenciaga, c'est exclusivement un gros quand même de leur stratégie social media, ils reposent là-dessus. C'est les spécialistes pour capter l'attention et notamment via les mèmeurs. Chaque collection, elle intègre à peu près, tu regarderas à peu près systématiquement un à deux produits qui sont des meme baits, qui sont faits pour générer du meme. Les sacs poubelles Prada, mais c'est fait pour que les mecs les détournent. Le sac à main en forme de paquet de chips, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir là. Tu sais, ils ont fait un petit sac à main besace qui ressemble à un paquet de chips point barre. Ça c'est pareil, c'est pour faire du meme. C'est très intéressant de voir cette stratégie à l'œuvre.
Non, c'est très très intéressant effectivement. Parfois vous vous demandez, vous voyez un produit sortir, vous vous dites non mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. Non, en fait c'est pas vraiment sérieux, c'est fait exprès pour aller chercher cette viralité là sur les plateformes.
Parce que rappelons que pour les marques, les mèmes et les marques, ça reste quand même un sujet compliqué, hein. Une entreprise, rappelons les règles quand même, une entreprise n'a pas le droit d'utiliser des contenus qui sont pas elle.
Voilà, bah
ça,
oui.
c'est la règle de base, même sur le web, les amis. Et le problème, c'est que la quasi-totalité des mèmes, en général.
C'est du détournement, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, voilà. Quand t'es une marque, c'est compliqué
donc là,
d'aller récupérer ça.
Soyons clairs, vous êtes en pleine zone grise, hein, avec le même,
si vous
le même audio, la même vidéo.
Si vous voulez
le...
prendre la vidéo de Will Smith, par exemple, qui met une gif à Chris Rock aux Oscars et que vous êtes une marque, je vous le déconseille très fortement,
non,
quand même.
À vos risques et périls, ouais, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, zone grise ici. Et donc, c'est pour ça que
c'est une bonne solution,
grosses marques travaillent à elles-mêmes être génératrices d'engagement via le même.
Bon, vous l'aurez compris, on a essayé de déblayer le terrain du mème de ces derniers temps. Le mème, il est partout, hein, tout simplement.
Il est partout, tout le monde s'y met, tout le monde en fait. Préparez-vous à ce que ça s'accentue encore plus.
Si vous avez d'autres exemples, si vous avez d'autres tendances qu'on n'aurait pas vues dans le monde du mème, n'hésitez pas, venez nous en parler sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, Pinterest, on est partout, venez en parler avec nous. Nos équipes ici se font un régal de vous répondre et d'en discuter. Et puis, tous les matins on est sur Twitch, hein, à 9h, donc vous pouvez venir nous voir en direct et en parler avec nous. Sinon vous pouvez nous laisser un petit commentaire et une note sur les plateformes de podcast.
Merci à tous, on vous embrasse et on vous souhaite une très belle journée. À demain, salut tout le monde,
ciao
bye.